Bonjour à tous. Pas trop fatigué, j'espère, après le changement d'heure. Et Samuel, il avait dit qu'il y aurait une différence aujourd'hui. C'est moi, l'Américain, la différence. Désolé. mais puisque nous avons une autre célébration de Pâques et un message centré sur l'Évangile et sur la résurrection la semaine dernière, je prêcherai pas spécifiquement sur la résurrection du Seigneur Jésus, mais tout ce que nous avons chanté, évidemment, et tout ce que je prêche aujourd'hui dépend de cette résurrection. Louons donc Dieu pour sa victoire sur la croix et la résurrection de son Fils Jésus-Christ, car sans cela, il n'y aurait pas de chant, pas de prédication et pas d'église. Donc, joyeuse Pâques, mes chères familles. Il y a presque exactement 2 mois, je pense maintenant, que j'ai prêché la dernière fois dans l'épître aux Philippiens. Alors j'espère que vous vous souvenez de ce que nous avons parlé la dernière fois, mais c'est un rappel pour vous. Les 11 premiers versets de Philippiens sont uniques à plusieurs égards. Premièrement, Paul adresse sa lettre non seulement aux membres de l'Église, comme d'habitude, mais aussi aux anciens et aux diacres. Il voulant les inclure dans son expression d'amour. Et deuxièmement, c'est une introduction pleine de gratitude et pleine d'affection pour les Philippiens. Et troisièmement, bien qu'il n'y ait pas de commandement explicite à suivre, nous avons appris que Dieu valorise le partenariat dans l'Évangile plutôt que de simplement observer le travail d'autres chrétiens et que le progrès et la croissance continue sont vitaux pour la vie chrétienne. Pour commencer aujourd'hui, une chose que j'aime faire d'habitude quand je prêche en anglais, mais quand je prêche, c'est de dessiner une sorte de carte. Et comme ça, tous qui écoutent savent où nous allons et comment nous y arrivons. Et je ne sais pas si c'est typique des présentations françaises, mais mes professeurs de langue à Albertville étaient toujours en colère contre moi parce que je faisais mes présentations de cette façon, comme si je gâchais la surprise en donnant ma conclusion en premier. Mais comme ils ne sont pas là, je vais faire les choses à ma façon, rebelle et exotique, à la manière américaine. Voici donc la carte. J'ai divisé ce passage. Le passage, c'est Philippiens 1, versets 12 à 18. Mais j'ai divisé ce passage en 3 sections. Aucune d'entre elles n'est suffisante pour se suffire à elle-même, mais tout ensemble, elles nous permettent de mieux comprendre ce bref passage. Vous connaissez peut-être cela si vous avez déjà enseigné le cours du dimanche ou si vous aimez vraiment vous plonger dans les détails de votre étude biblique personnelle. Mais ces 3 sections sont résumées, ça veut dire que dit le texte, interprétation, que signifie le texte et application. Que dois-je faire en réponse au texte ou comment cela s'applique à notre situation aujourd'hui? Chacune de ces étapes d'une bonne étude biblique est cruciale et ne doit pas être oubliée ou confondue avec les autres étapes. Par exemple, il existe un commentaire biblique anglais écrit par Matthew Henry ou Matthew Henry. C'est incroyablement populaire avec les anglophones et c'est plutôt bon aussi, mais il résume surtout le texte et vous dit rarement ce que vous êtes censé faire avec toutes les informations qu'il vous donne. Une grande partie de son contenu est simplement une aide pour le contexte historique et biblique. L'étude des langues bibliques est également très importante, bien sûr, mais une fixation sur l'hébreu ou le grec peut être une distraction quelquefois. Un jour, un professeur de grec, avec mes études bibliques, m'a dit que tout bon pasteur devrait considérer ses connaissances grecques comme ses sous-vêtements. Il doit toujours l'avoir sur lui, mais il n'est pas nécessaire de l'exhiber. Je pense que c'est la phrase préférée de tous les professeurs de grec. en France aussi. Certains commentaires et études bibliques, en particulier, malheureusement, les études bibliques pour les femmes ont tendance à sauter le résumé et tout le travail de fond pour passer directement à la deuxième étape, l'interprétation. Si c'est le cas, comment pouvez-vous savoir comment ils ont procédé et comment ils ont arrivé à leur conclusion? Et même si je déteste le dire, Charles Spurgeon, qui était un bien meilleur prédicateur que moi, on l'a même appelé le prince des prédicateurs, il est un exemple d'application directe. Si vous lisez ses messages, il prêchait souvent des messages de 10 minutes qui étaient presque exclusivement des applications du passage qu'il venait de lire à la congrégation. Donc, ces éléments sont tous nécessaires à une bonne lecture de la Bible, mais il peut être dangereux de mettre l'accent sur l'un d'entre eux au détriment des autres. Cela dit, nous suivrons ce plein de résumés d'interprétation et d'application avec les prochains versets du chapitre 1 de Philippiens, versets 12 à 18. Et comme dans la dernière section, bien qu'il n'y ait pas de commandement explicite à suivre, il y a beaucoup de choses dont nous pouvons profiter et que nous pouvons imiter. Lisons ensemble, versets 12 à 18. Et j'utilise aujourd'hui la traduction La Colombe. Je veux que vous le sachiez, frères, ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. En effet, dans tous les prétoires et partout ailleurs, il est devenu manifeste que c'est pour Christ que je suis dans les chaînes. La plupart des frères, confiants dans le Seigneur en raison de mes chaînes, ont beaucoup plus de hardiesse pour annoncer sans crainte la parole de Dieu. Certains, il est vrai, prêchent le Christ par envie et rivalité, mais d'autres le font dans des dispositions bienveillantes. Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'Évangile, tandis que ceux-là annoncent le Christ dans un esprit de rivalité. Leurs intentions ne sont pas pures et ils pensent ajouter quelques tribulations à mes chaînes. Qu'importe, de toute manière, que ce soit sous un faux prétexte ou que ce soit en vérité, Christ est annoncé. Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. Donc, notre première étape, résumé. Que dit le texte? En commençant par le verset 12, parce que nous avons en quelque sorte tiré ce passage au milieu d'un autre passage plus grand. Il est important d'identifier qui parle à qui, sinon nous pourrions commencer à faire toutes sortes d'inférences bizarres. Et Paul, il a dit frère. Comme nous l'avons appris dans l'introduction la dernière fois, Paul s'adresse à des chrétiens de Philippe, des chrétiens, des membres de l'Église et des anciens et des diacres. Et selon les 11 premiers versets et le chapitre 4 de Philippe, il s'agit de chrétiens qui ont été ses seuls soutiens pendant très très longtemps. Toujours verset 12, la deuxième partie, il utilise l'expression ce qui m'est arrivé. Ce qui lui est arrivé, c'est qu'il a été mis en prison. Très probablement à Rome, vers la fin de sa vie, parce que nous voyons des signes ici, puisqu'il mentionne le prétoire dans cette section, ou la garde impériale. Ça, ce qui signifie qu'il est détenu par les Romains et qu'il mentionne la maison de César au chapitre 4. Au verset 12 encore et 13, Paul parle de la manière dont son emprisonnement est utilisé pour diffuser la vérité sur la personne et l'œuvre de Jésus et sur la manière dont nous pouvons être sauvés. Je veux aussi souligner qu'il utilise l'expression progrès de l'Évangile, comme s'il y avait une sorte de mission à accomplir avec une fin en vue. Bien que nous ne parlions pas encore de sens, il est facile de déduire de l'expression utilisée par Paul qu'il considère que son travail a un but. Il ne se contente pas de vivre en chrétien devant les gens et de se faire jeter en prison parce qu'il est si gentil. Non, il confronte le péché des gens, leur dit la vérité de l'Évangile et leur dit qu'au lieu de César comme Seigneur, c'est Jésus qu'il est. Et ça, c'est pourquoi il est en prison. Et c'est dans ce travail que les Philippiens étaient partenaires avec lui. Au verset 14, l'emprisonnement de Paul a également servi à renforcer la détermination de la plupart de ses compagnons chrétiens. La plupart. C'est un point sur lequel nous reviendrons plus tard, mais notez que Paul indique clairement que sa situation actuelle ne rassure pas tout le monde. Versets 15 à 17, il parle d'autres prédicateurs. Ces prédicateurs audacieux se divisent en deux groupes. Ceux qui sont authentiques et les autres qui, pour une raison ou une autre, prêchent la vérité, mais uniquement pour en tirer quelque chose. Que ce soit la notoriété, la jalousie ou toute autre raison égoïste. Et ici, une petite parenthèse pour expliquer le langage de Paul ici, parce que ça me fut, mais parce que c'est un point qui m'a troublé pendant de nombreuses années. Je voudrais préciser qu'il y a une différence entre bien comprendre le contenu de l'Évangile et mal le comprendre. Et ce n'est pas le contenu de l'Évangile qui préoccupe Paul avec les Philippiens. Regardez la différence dans la façon dont il parle à l'église de Galatie qui était tombée en piège à un faux évangile. C'est Galates, chapitre 1, versets 6 à 9. Il dit aux Galates, aux Galatiens, « Je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y en ait un autre, mais il y a des gens qui vous troublent et veulent pervertir l'évangile de Christ. Mais si nous-mêmes, ou si un ange du ciel vous annonçait un évangile différent de celui qui nous vous avons annoncé, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment et je le répète maintenant. Si quelqu'un vous annonce un évangile différent de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. » Et Paul utilise ici un langage très très fort, au point de chasser quiconque enseigne un faux évangile. Il est donc clair que même si ces mauvais prédicateurs ont une mauvaise attitude, ils n'enseignent rien de contraire à ce que Paul a enseigné précédemment. Ils ne sont pas nécessairement de faux docteurs. Et après ça, en chapitre 2, Paul prend également le temps de reprendre à l'attitude de ces mauvais prédicateurs. Il dit, verset 14 de chapitre 2, « Faites tout sans murmure ni discussion pour être irréprochables et purs, des enfants de Dieu sans reproche au milieu d'une génération corrompue et perverse, parmi laquelle vous priez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. » Et enfin, mon verset, pour le résumer, mon verset préféré, verset 18, rien de tout cela ne dérange Paul et il est heureux que l'évangile soit prêché. Je vais lire encore verset 18. Qu'importe de toute manière que ce soit sous un faux prétexte ou que ce soit en vérité, Christ est annoncé. Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. Alors, c'est ce que dit le passage, c'est le résumé. Et nous connaissons un peu l'histoire, un peu. Et nous l'avons comparé à la situation en Galatie, mais nous devons nous demander que veut dire le texte. Quand on parle d'interprétation de la Bible, il est dangereux quelquefois de poser la question, qu'est-ce que ça veut dire? Car cela peut rapidement dévier vers la question, qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Tant de gens sont dans la fausse supposition que le sens de la Bible pourrait jamais changer. Que ce soit au fil du temps, comme si Dieu évoluait avec la culture populaire, ou que le sens de la Bible est soumis à notre opinion personnelle. Rappelez-vous, il n'y a toujours qu'un seul sens à un passage. Un seul sens, mais la possibilité de nombreuses applications personnelles. Mais nous parlons maintenant d'interprétation. Alors, que signifient ces versets? Notre deuxième étape, c'est l'interprétation. Que signifie le texte? Et après avoir beaucoup étudié, comme Françoise a dit, et prié sur ce passage, et maintenant j'avais prêché 4 fois en anglais et en français, je crois que voici ce que le Seigneur communique avec ces quelques versets. Il s'agit du thème principal ou de l'idée centrale du texte. C'est ici. La proclamation de l'évangile est centrale et tout le reste est subordonné à cet objectif, y compris le bien-être personnel. Encore une fois, parce que je pense que c'est vraiment l'idée centrale de notre texte aujourd'hui. La proclamation de l'évangile est centrale et tout le reste est subordonné à cet objectif, y compris le bien-être personnel. Paul place dans ce texte, Paul place le message de l'évangile au-dessus de tout. Son emprisonnement, peu importe, il a partagé l'évangile. De plus, il a encouragé d'autres personnes à partager l'évangile, donc une double victoire pour Paul. D'autres chrétiens partagent l'évangile avec des motifs impurs, peu importe, ils ont partagé l'évangile aussi. Nous devons examiner ce qui est vraiment communiqué ici. Paul ne parle pas de son emprisonnement ou de prédicateurs envieux. Bien sûr, il les mentionne, mais ce qui est prévalent, c'est le thème de la centralité de l'évangile. Cela nous conduit à la troisième étape où nous pouvons appliquer ce thème. Application. Qu'est-ce que le texte veut que nous fassions? Qu'est-ce que le texte veut que nous fassions? Paul expose ici trois principes dont nous pouvons apprendre et que nous pouvons non seulement apprécier, mais aussi imiter. C'est ainsi que nous pouvons, comme Paul, utiliser notre position, que ce soit celle d'un parent ou un grand-parent avec nos petits, donc collègues ou d'un ami, pour diffuser le nom de Jésus. Premièrement, il y a humilité. Il y a humilité, versets 12 à 14. Et voici l'humilité illustrée par Paul. Paul ne considère pas son emprisonnement comme un affront personnel, ni comme un obstacle à la prédication de l'Évangile. Il dit en verset 13, c'est pour Christ que je suis dans mes chaînes. C'est pour Christ que je suis dans les chaînes. Et il ne se vante pas de son enseignement comme si c'était ce qui avait encouragé des frères. Mais il reconnaît que ce sont des circonstances indépendantes de sa volonté que Dieu a utilisées pour rendre témoignage à ses geôliers et aux frères. Verset 14. La plupart des frères confiants dans le Seigneur, pourquoi? En raison de mes chaînes, ont beaucoup plus de hardiesse pour annoncer sans crainte la parole de Dieu. Et comme je l'ai dit plus tôt en parlant du mode d'expression de Paul dans ce passage. Ce texte a toujours été un peu difficile à comprendre pour moi, mais surtout en ce qui concerne l'exemple d'humilité de Paul. Le Seigneur m'a beaucoup appris ces dernières années en France. Évidemment, le fait d'avoir été prédicateur avant pendant plusieurs années et d'être revenu des États-Unis où j'ai prêché tous les dimanches de notre séjour, mais de devoir maintenant écrire chaque mot de mon message et de le lire, c'est difficile. Ça m'a rendu très, très humble. Et Dieu m'a beaucoup appris sur ma propre arrogance et sur ma dépendance à lui, vraiment. De plus, la vie quotidienne en France, ça a été une leçon d'humilité pour Kendall et moi. Et comment pourrait-il en être autrement? Autrement, quand vous devez réapprendre comment fonctionnent les magasins et les pompes à essence à l'âge de 30 ans. En tout cas, Paul a donné le meilleur exemple ici dans ce texte. Quand il a été emprisonné pour avoir dit la vérité, au lieu de se plaindre ou même d'être justement offensé, il a reconnu que son malaise servait la cause du Christ. Deuxièmement, verset 15 à 17. Au verset 15, il dit certains, certains, mais certains de quoi? Certains des frères. Si nous comparons ceci à Galates 1, 6 à 9 que nous avons lu plus tôt, il y a une différence claire entre la façon dont Paul s'adresse aux hérétiques de Galatie et aux frères de Philippe. Paul montre du discernement en ne rejetant pas en ne jetant pas l'anathème sur ses frères de Philippe simplement parce qu'ils sont en désaccord les uns avec les autres. Même si leurs motivations sont erronées, Paul ne les exclut pas avec raison de l'assemblée. Néanmoins, plutôt que de faire l'autruche et de prétendre que tout va bien tout le temps, Paul reconnaît qu'il y a des frères en Christ qui font leur devoir chrétien pour des motifs erronés, impurs. Il y a évidemment une dualité dans ce discernement, car d'une part, il faut être assez discerné pour reconnaître qu'un frère en Christ n'est en fait pas l'ennemi, même s'il y a un désaccord avec vous. Et d'autre part, il faut être prêt à défendre la foi contre de vrais intrus qui feraient du mal à l'Église de Dieu. J'ai rencontré un pasteur à une conférence l'année dernière à Grenoble avec Emmanuel. Et il m'a demandé ce que je pensais des différences entre les communautés chrétiennes en France et aux États-Unis. Et j'ai répondu que si les chrétiens américains sont beaucoup plus prompts à ségréguer et à se séparer les uns des autres sur des questions théologiques apparemment mineures, et même sur des choses stupides comme la couleur de tapis, tu sais, selon mon expérience très limitée en France, souvenez-vous, très limité. C'est parfois le contraire de mon expérience ici en France, où j'ai vu des chrétiens se rassembler en un seul grand groupe et oublier l'existence même des doctrines qui divisent. Et j'ai vu ce grand manque de clarté causer beaucoup de confusion. Il y a des aspects positifs et négatifs à chacune de ces tendances des pays, et aucune église ou culture chrétienne sur cette terre n'est parfaite, bien sûr, mais ce pasteur a compris ce dont je parlais et m'a donné une phrase dont je me souviendrai toujours. Quand il y a du flou, il y a un loup. C'est correct? Ok, grammatical? Ok, oui. Super. Quand il y a du flou, il y a un loup. J'ai lu depuis que certaines personnes avaient utilisé cette phrase dans son sens politique. Mais elle fonctionne toujours. Okay? Lui, ce pasteur, il avait suffisamment ce discernement pour reconnaître qu'un manque de clarté dans l'enseignement biblique était dangereux et constituait un terrain fertile pour les faux enseignants. Les chrétiens qui tentent d'imiter le discernement de Paul se contentent trop souvent de rechercher des signes évidents plutôt qu'un simple manque de clarté. Pardon. Si vous regardez des émissions pour enfants, comme je le fais parce que j'ai beaucoup d'enfants, vous verrez que nous sommes formés dès le départ à penser que tous les méchants portent un uniforme. La vie réelle n'est pas un film de super-héros où les bons et les méchants se distinguent facilement. Le discernement spirituel tel que l'illustre ici Paul est difficile parce qu'il ne s'agit pas seulement de connaître les bonnes et les mauvaises réponses, mais aussi de comprendre qu'il y a une centaine de réponses presque correctes entre les deux. Et rappelez-vous que, comme Paul l'a dit aux Galates, tout évangile qui est presque l'évangile n'est pas l'évangile. Troisièmement, et maintenant ma partie préférée, la joie. Paul exemplifie la joie, verset 17 à 18. Je vais lire encore 17 à 18. Tandis que ceux-là annoncent le Christ dans un esprit de rivalité, leurs intentions ne sont pas pures et ils pensent ajouter quelques tribulations à mes chaînes. Qu'importe, de toute manière, que ce soit sous un faux prétexte ou que ce soit en vérité, Christ est annoncé. Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. En verset 17, il dit « Leurs intentions ne sont pas pures et ils pensent ajouter quelques tribulations à mes chaînes. » Mais pourquoi? Pourquoi? Nous avons une expression en anglais « to add insult to injury » ou ajouter l'insulte à la blessure? Est-ce qu'il y a une phrase en français, c'est comme ça? Mais d'ajouter insulte à la blessure, pourquoi un chrétien voudrait ajouter une tribulation à un autre chrétien qui souffre? C'est une bonne question. Mais en ce qui concerne l'application, je pense que nous avons tous vu ce qui s'est passé pendant les confinements, pendant la pandémie. Chaque pays, et même chaque État des États-Unis, a géré les confinements et règles différemment. Mais ce que j'ai observé, c'est que les articles des pasteurs, les revues chrétiennes et les réseaux sociaux étaient remplis de combats et de disputes entre chrétiens qui n'étaient pas d'accord sur la meilleure façon de poursuivre le ministère pendant une pandémie. Dans notre église à Mississippi, aux États-Unis, plusieurs membres sont partis parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec la façon dont nous gérions la situation. Et vraiment chaque semaine, quelqu'un d'autre nous expliquait pourquoi nous avions tort et étions stupides pour avoir pris la décision que nous venions de prendre. Certains auteurs chrétiens que j'ai lus à l'époque semblaient même heureux que plusieurs pasteurs aux États-Unis et au Canada aient été arrêtés pour avoir continué à célébrer les services du culte. À une époque où les chrétiens avaient la possibilité et la nécessité de s'encourager les uns les autres, beaucoup ont ajouté à la tribulation des autres. Et nous savons que le grand péché de l'Empire romain était de dire que quelqu'un d'autre que César était le Seigneur. Et je peux donc imaginer que ses contemporains de Paul disaient peut-être, oui, s'il avait simplement dit que César était le Seigneur aux autorités, il ne serait pas en prison. Et Paul est tellement stupide de croupir en prison. Alors qu'il pourrait être en train de faire des disciples, il doit être très orgueilleux. Mais malgré, et c'était mon imagination, mais malgré cette tribulation supplémentaire, Paul dit la meilleure chose du monde. Qu'importe, peu importe. Il ne se plaint pas et ne s'inquiète pas de cette situation. Certes, très frustrante, mais il est en paix avec les autres et avec sa situation. Parce qu'il sait que Dieu l'a placé là pour son bien et pour la gloire de Dieu. Il n'y a pas d'esprit de compétition avec ces autres prédicateurs, parce que la mission de Paul est de propager l'évangile et pas nécessairement de se faire un nom en le faisant. Je le dis tout le temps aux gens, et ma femme qui n'est pas là, mais je dis tout le temps aux gens parce que je suis très sérieux à ce sujet, mais il y a une citation de Nicolas von Zinzendorf, qui était le chef de Moravien, c'est le vrai mot Moravien, au 18e siècle, qui sera la seule inscription sur ma pierre tombale. Il a dit, prêchez l'évangile, mourrez et soyez oubliés. Et c'est ironique parce que... Ouais, c'est ironique. Et voici le symbole des Moraviens. Mais je pense que c'est cet esprit que Paul personnifie dans ces versets. Et c'est un esprit de joie. Là où chacun d'entre nous serait parfaitement justifié d'être inquiet, Paul est au contraire joyeux. Quand d'autres chrétiens se moque de lui et utilise sa souffrance comme un outil pour leur propre avancement. Paul est joyeux. Il dit, qu'importe, c'est mon mot préféré maintenant, vraiment, qu'importe, peu importe, de toute manière, que ce soit sous un faux prétexte ou que ce soit en vérité, Christ est annoncé. Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. En conclusion, tout le temps que j'ai passé dans ce texte au cours des derniers mois a vraiment servi à
solidifier.
You know, thank you, merci. Solidifier ces principes dans mon esprit. Et bien que chacun d'entre nous doive déterminer comment ce texte peut s'appliquer spécifiquement à sa propre vie, les trois attitudes de Paul, c'est humilité, discernement et joie. Ces trois attitudes que Paul affiche sont universelles pour chaque chrétien et attendues de chacun d'entre nous. Il convient également de noter que ces trois caractéristiques, encore. Oui, tu sais, vous savez, ces caractéristiques ne peuvent être atteintes que dans le cadre d'une vie vécue au service de Dieu. La bonne nouvelle, c'est que si vous ne vous êtes pas encore détourné de vos péchés et n'avez pas encore cru en Jésus, vous pouvez le faire aujourd'hui. La résurrection du Christ est la preuve que son sacrifice est suffisant pour sauver tous ceux qui viennent à lui. Et je prie pour que Dieu donne à chacun d'entre nous l'humilité, le discernement et la joie qu'il attend de nous. Une bénédiction. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et qu'il vous donne la paix. Amen.